Et Louis-Philippe a retrouvé le sourire.
Oui, ben oui, c'est vrai.
Parce que la belle Geneviève est avec nous en studio aujourd'hui.
Il perd pas son sourire, juste quand il fait des jokes plates.
Bonjour, Geneviève.
Bon matin, ça va bien?
Oui, on est très contents que tu sois là.
Oui.
Est-ce qu'on dit un... Oups, là.
Excuse-moi.
Qu'est-ce qui se passe, le son?
Ah, il est là, c'est beau.
Parce qu'il vient de monter, okay.
Je suivais le fil, puis j'ai mal suivi le fil. Je m'excuse, Jocelyne.
Il n'y a pas de problème.
C'est bon.
Est-ce qu'on fait un petit clin d'œil au concours de la
semaine
dernière?
Oui. Ben écoutez, je pense que je vais sûrement en faire pour les peut-être deux, trois prochaines chroniques, incluant celle-ci. Là. Dans le fond, c'est parce que je vais essayer de vous ramener des vins et pour parler d'un peu des régions qui ont été dégustées. Mm-hmm. La semaine passée, je vous ai parlé des vins de l'Ontario.
Oui.
Puis, cette semaine, je vous ai apporté vous connaissez sûrement tous cette maison qui est très renommée. Quailsgate, je vais vous le montrer sur Facebook, venez nous rejoindre. Quailsgate, qui est une des... Monsieur Stewart, c'est un des pionniers dans le Okanagan Valley. Donc là, en fait, on va parler des vins de Colombie-Britannique. Donc, il y avait un séminaire. C'est sûr qu'il y a eu plusieurs séminaires, comme je vous disais, de plusieurs régions. Et la Colombie-Britannique, ben c'est sûr, il y avait plein de vins à déguster. Puis bon, les vignerons étaient là, puis expliquaient leur savoir, parce que c'est quelque chose de le lire, de l'écouter, de le goûter. Mais quand le vigneron parle, vraiment, là, on saisit vraiment plein de choses qu'on saisit pas, ou juste quand vous m'écoutez, ou quand on lit un article sur le vin. Donc, tu sais, lui, il parle vraiment, là...
il parle de lui comme si c'était son... Il parle du vin comme si c'était son bébé, tu sais.
C'est son bébé.
C'est ça.
Comment il vit, comment il travaille, comment il se sent, c'est quoi qui se passe?
Parce qu'effectivement, toi, quand tu parles d'un vin, tu parles du bébé de quelqu'un, tu dis, ben, il est beau, puis il est fin, puis tout ça.
Mais les amis bébés.
Oui, c'est ça. Oui. Mais étant celui qui a créé le vin, t'es capable de dire exactement...
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as vécu?
Où il s'en va avec
ça?
Ça. Qu'est-ce qui est difficile? Parce que nous, on n'est pas dans les terres, tu sais, pour savoir vraiment qu'est-ce qui est difficile, tout
c'est
ça.
Vrai.
Donc, moi, quand j'ai l'occasion de rencontrer un vigneron, je trouve ça merveilleux. Et puis, c'est une puise de connaissances.
Mm-hmm.
Et je vais vous servir entre-temps. Donc,
puis là, aujourd'hui, donc, on boit un... C'est un pinot noir, on peut-tu le dire?
Oui, okay. Pinot noir.
Tiens, Justine.
Donc, en fait, bon, en Colombie-Britannique, il y a beaucoup, beaucoup de cépages qui sont plantés. Pour en nommer quelques-uns, vous allez me dire tous. Merlot, Pinot Gris, Pinot Noir, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Gewürztraminer, Cabernet Franc, Syrah, Riesling, Sauvignon.
Ben, c'est l'Europe au complet.
C'est des cépages un peu comme qu'on connaît à l'européenne.
OK. Et c'est parce qu'il fait plus chaud là-bas?
Écoute, c'est ça qui est merveilleux. Donc, Quailsgate, qui est un des pionniers, qui a planté des vignes très, très tôt. Ça fait 60 ans qu'ils font du vin, Quailsgate. Donc, M. Stewart a planté, je pense, c'est un chasselas qui est une vitis vinifera. En tout cas, pour vous dire brièvement, là, c'est une vigne très vieille. Et puis, bon, lui l'a planté et puis, bon, ça s'est développé. Et dans le fond, la Colombie-Britannique, c'est des microclimats. C'est très, très grand. C'est Okanagan Valley. Là, on est en Colombie-Britannique. Quailsgate, on est dans Okanagan Valley. Okanagan Valley, que vous connaissez sûrement tous de nom, c'est la région, la sous-région qu'on connaît le plus,
c'est
peut-être.
C'est là qu'ils font plein de fruits, des pommes, des pêches, des nectarines, c'est bien tout de là, ou presque.
Du vin, du vin de d'autres régions.
Ouais,
mais principalement, là, dans le fond, c'est une région extrêmement productrice de fruits, hein, parce que le raisin est un fruit, je vous apprends rien. Et dans le fond, 84% des vins sont produits là, dans la vallée de l'Okanagan.
Mmh.
Il y a d'autres vallées, Fraser, tout ça, mais très productrice. Et pourquoi, en fait, c'est que il fait très chaud, il fait comme, je pense même 2 degrés de plus, il y a 2 heures de plus d'ensoleillement que Napa Valley. Et dans l'Okanagan Valley, pour que vous sachiez, c'est comme des microclimats. Tu sais, il y a des vallons, merci. Et puis ça crée des microclimats. Hein. Des fois, c'est protégé par les vents. Il y a plus de chaleur. Il fait très 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 chaud. Et c'est très sec. Et les températures passent de moins 20 l'hiver à plus 40 l'été. Étant donné qu'il y a pas beaucoup de pluie, il y a peu d'humidité. Moins de maladies.
Ouais.
Donc, c'est très bon, très bénéfique. Et là, les sous-régions sont tellement importantes, les microclimats en soi, chacun, qui sont en train de vraiment de les séparer pour faire, j'imagine, des espèces d'appellation ou de vraiment définir là, la zone climatique.
On se bat quand même parce que là, je le goûte, je le sens là, pour l'instant, je vais y goûter, mais on se bat. Est-ce qu'on se bat contre les vins californiens comme ça? Parce que tu me dis à peu près c'est le même climat ou à peu près c'est à peu près les mêmes cépages aussi. Donc on se bat au niveau mondial contre la Californie?
Oui, absolument. Donc c'est très comparatif étant donné que bon là on est dans le Pinot Noir, un cépage très souple, très léger avec de la cerise. Mais si vous comparez le Pinot Noir de Bourgogne et un Pinot Noir de Californie, très différent. En bouche, la structure là qu'on discute souvent est la même, sauf que le Pinot Noir de Californie va avoir beaucoup plus de fruits. Ça goûte l'ensoleillement, ça goûte le fruit que la cerise qui est rendue noire, qui est pas rouge.
Un peu comme celui-là.
Donc effectivement, donc en Colombie-Britannique.
Ça sent beaucoup la cerise.
Exactement. En Colombie-Britannique, il fait très chaud. Donc effectivement, que c'est un produit sur le marché qui peut se comparer là en. Comme tu dis là,
à la Californie.
À la Californie.
Ouais. Et est-ce qu'il a moins de sucre que le vin de la Californie?
Ouais, les sucres, ça, c'est les sucres résiduels, ce qui reste après la fermentation, c'est propre à chaque vin.
C'est bon.
Donc, y a pas, on peut pas dire qu'il y a moins de sucre ou pas. Généralement, les vignerons font des vins secs hein, avec le moins de sucre possible. Ça, c'est sûr. À moins qu'ils recherchent vraiment un vin demi-sec avec du sucre en bouche. Mais on est vraiment à l'air, tu sais, le sucre, c'est bon, mais pas trop, hein.
Non,
puis,
oui.
si on veut s'acheter du Kool-Aid, on va à l'épicerie. Uh-huh. Du vin, c'est un breuvage sain, ne doit, d'après moi, pas être tant sucré que ça. À moins que ça soit recherché comme un vin de glace ou un vin demi-sec, là. Tu sais, pour apaiser un plat qui est pimenté.
Épicé, ouais. Oui, effectivement.
Il est vraiment délicieux.
C'est vrai que ça sent les fruits mûrs, hein? Ouais. Même la mûre sauvage, la cerise.
La fraise aussi. En tout cas, il y a beaucoup de, c'est beaucoup sur le fruit rouge, je dirais. Mm. Et tu sais quoi? Moi, je m'attendrais à ce que ce soit plus capiteux que ça. Puis au contraire, je le trouve assez vif et fruité.
Mais le Pinot Noir, là, le tanin, ça coule vraiment, hein? C'est pas, on reste pas. Vous savez, quand vous buvez un gros Cabernet Sauvignon, la langue vous colle au palais. On n'est pas là du tout. Le Pinot Noir, ça se boit. C'est agréable, ça coule facilement dans la bouche, ça reste pas tapissé en bouche, c'est souple, mais notre bouche est emplie de saveurs de fruits. Très présent. Si on était en Bourgogne, on aurait du fruit, mais beaucoup moins, tu sais, la ligne, ça serait plus droit, ça serait moins joufflu, si on peut dire, en bouche, là. Donc, il y a vraiment une différence, là.
Et au niveau du prix, tu sais, on compare, par exemple, le Canada et les Américains avec un vin semblable.
Écoute,
on est dans la même braquette.
Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que là, les prix, il y en a de tous les sortes, hein, dans les deux côtés. Mm-hmm. Ici, Questgate fait un Pinot Noir. Le Pinot Noir, c'est toujours plus cher. Peu importe où est-ce que vous allez aller. C'est un cépage qui est difficile à vinifier. Sa peau est fragile. Si ça brise avant le temps, ben, ça va, le vin peut s'oxyder puis ça va développer des maladies puis tout ça. Donc, tu sais, quand le cépage est plus difficile, c'est sûr que c'est plus coûteux. Produire le vin. Donc, Questgate a des pinots noirs, un pinot noir générique à 29 $ en SAQ, en un autre comme un peu plus haut de gamme à 43. Les pinots noirs californiens, il y en a à ces prix-là, 23, 29, il y en a à 43, il y en a à 85. Puis, honnêtement, il y a des vignerons, ils ont amené des vins très chers aussi. C'est sûr, des vins qu'on n'a pas ici au Québec pour nous faire goûter, nous apprendre à une masterclass, ça dit, c'est pour apprendre une classe de maître.
Tu veux aussi frapper les gens en disant goûte à ça, ce vin-là.
Oui.
Parce que c'est spectaculaire.
Puis je l'ai fait d'une telle façon, tu sais, c'est l'apprentissage aussi. Vous l'avez pas encore au Québec, parce que bon, on peut pas tout avoir, tu sais, tout d'un coup. Mais regardez, moi, j'ai travaillé là-dessus, j'ai arrosé moins, ça donne ça. Bon. Et ils ont amené des vins très chers, centaines de dollars faciles. Donc, écoute, je pense pas qu'il y a une différence.
Est-ce que c'est disponible à la SAQ, ça, le Questgate?
Oui,
comme
disponible
ça?
À la SAQ. Okay.
Et celui-là, il est à combien?
Celui-là, non, pas non? celui-là. Celui-là, c'est un
150.
Pinot noir qui n'est pas disponible en SAQ, celui-ci. Mais par contre...
Vous pouvez le commander en ligne.
Il, en général, il, a dans le, il y a deux pinot noirs disponibles en SAQ.
Okay.
Oui, vous pouvez commander. Mais il y en a dans tous les SAQ. Là. Le Questgate, il l'a à nos SAQ ici. Donc, pas de souci. Là. Il a, c'est tellement connu. C'est un producteur tellement qualitatif que il est renommé que ceux qui ne le connaissent pas, ben allez-y.
Apprenez à le découvrir.
Et on oui, exactement. Quoi?
Alors, les pinots noirs, mon doux, ça peut être une viande braisée parce qu'on n'a pas besoin de ça. Moi, j'adore avec du confit de canard. Ça peut être une salade avec, tu sais, là, je pense à l'été, des volailles grillées.
Oui, je voulais dire, c'est le barbecue.
Des volailles grillées, ouais. Des pinots noirs légers, des pizzas, des pâtes avec de la sauce tomate, des trucs qui sont, qui ont de la tomate là mais qui nécessite pas vraiment de tanin parce que si c'est trop tannique avec un repas léger, on goûtera plus le repas.
Okay.
Bref, okay. Il passe partout quand même pas mal.
Oui, vraiment, vraiment, c'est très beau.
Et délicieux, qu'est-ce que t'en penses?
Ben moi j'adore ça,
ah,
quand
oui,
t'as apporté des vins
bon.
Comme ça.
Et
moi,
on va féliciter notre gagnant.
Oui.
Parce que dans le fond, la semaine passée, je viens de réaliser, quand je vous ai parlé, c'était jeudi, et la finale, c'est le jeudi soir. Donc, pour ceux et celles qui auraient peut-être pas suivi Facebook, notre gagnant, c'est un Québécois.
Oui, bravo.
Pierre-Alex Soulière, bravo. On avait deux Québécois en finale.
Mais tu l'avais déjà noté, ça, tu disais qu'il était parmi les favoris.
Les trois, ouais. Non, mais il y avait trois finalistes. Calvin Lepage, Pierre-Alex Soulière, puis un autre candidat argentin.
Okay.
Et puis... ben c'est Pierre-Alexis qui a gagné. Donc, on est encore très fiers de nos Québécois. On est très forts dans les dégustations de vin.
Et la prochaine étape en Belgique, je pense,
Belgique,
en 2019.
L'année prochaine, voilà. Meilleur sommelier du monde. Ça va être quelque chose. On va en
parler.
Ça? Oui, absolument.
À la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Merci,
bye bye.
Merci, Philippe. Bye.